Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu. Je suis Antoine Bonjean. Et cette semaine, comme maintenant presque toutes les semaines, j'ai le plaisir de co-animer ce podcast avec Benjamin. Salut Benjamin.
Et bonjour tout le monde.
Salut, comment vas-tu?
Bah écoute, ça va pas mal. On est dimanche soir, on est bien.
Ouais, on est tranquille. Bon, mais écoute, ravi de te retrouver hein, pour encore une fois partager un peu cet épisode. Ouais, l'épisode de 96 hein, du coulisses du jeu, et on se rapproche dangereusement des trois chiffres bientôt. Donc, je ne sais pas si on fera un truc un peu particulier ou pas. Je vois que je réfléchisse à l'épisode 100. Si,
bah, carrément, il faut faire quelque chose. On va y réfléchir ensemble.
Et écoute. Je te représente quand même. Hein. On sait jamais pour les gens qui arrivent dans le podcast.
De plus en plus nombreux.
Qui me découvrent un peu avec cet épisode-là. Donc, toi, tu es le président et cofondateur de Lucid Factory.
Exactement. Studio basé à Villeurbanne, vers Lyon.
Ouais. Et vous développez des jeux vidéo sur PC.
Sur PC, avec le moteur de jeu Unity. Et pour l'instant, on se dirige surtout sur des jeux tactiques et stratégie avec notre premier jeu, Inulua's Fate, qui est un tower offense, roguelite et deck building.
Yes, et on aura l'occasion de peut-être en reparler un peu, peut-être à la fin, mais je mettrai le lien vers la page Steam hein, pour que vous puissiez découvrir un peu le jeu de Benjamin. Et pour ne pas perdre les bonnes habitudes, du côté du podcast Les coulisses du jeu, il faut bien penser à mettre ces 5 étoiles sur les plateformes de podcast, c'est important.
Très important.
Voilà, allez sur Apple Podcasts, Google Podcasts, partout où vous écoutez des podcasts, vous avez normalement la possibilité de retrouver les coulisses du jeu et surtout de noter et de commenter sur l'épisode pour qu'un maximum de personnes puissent découvrir le podcast. Je te propose Benjamin d'attaquer les premières news et on clôture un peu la saga de Unity, la taxe Unity.
Alors... Ouais, carrément. Et je crois que là, on va pouvoir bien clôturer la saga et peut-être le début d'une autre. On verra ça.
Je ne sais pas si tu veux expliquer un peu ce qui s'est passé ces derniers jours, semaines.
Bah, je pense que bon, bah, si vous suivez le podcast, vous commencez à savoir que Unity a fait énormément de créer beaucoup de problèmes et de rebondissements. Et là, nous avons la clôture de la saga première génération avec le départ du CEO, donc John Ricciello, qui du coup... Suite à tout ça, on lui a demandé de partir. Alors, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de commun. Souvent, ce n'est pas dans la tourmente qu'on fait partir le CEO, mais là, du coup, c'est le cas. Il est remplacé par Monsieur White... comment il s'appelle déjà son remplaçant?
C'est une présidence
Whitehurst. Ouais. Donc c'est un CEO temporaire, le temps qu'il trouve quelqu'un d'autre. Et James Whitehurst, qui est en fait... Si mes souvenirs sont bons, la personne qui représente le plus gros investisseur chez Unity, Sequoia Company, quelque chose comme ça, de mémoire. Ouais. Donc voilà, ils ont pas mis non plus le premier venu, hein, ils ont mis quelqu'un qui est bien au courant de comment fonctionne Unity.
Oui, il a quand même une certaine expérience, quoi. Il est très impliqué aussi dans la société Unity. Donc, il a bossé par exemple chez IBM avant.
Ouais, exactement.
Pendant plusieurs années, il a rejoint IBM en fait suite au rachat par IBM de Red Hat, qui est une solution open source. Très utilisé dans le mode dans les entreprises sur de la partie serveur, c'est une distribution Linux, un Red Hat, et donc ouais, c'est pas un petit joueur quoi. il est assez solide, donc ça mais il est là par intérim, donc il a bien qu'il reprenait pas le rôle de CEO à full time de façon définitive. Il cherche à recruter un nouveau CEO, donc si vous êtes intéressé, peut-être postuler.
Bah oui, bah faut peut-être faire ça, tiens, finalement.
CV, et en fait CEO Unity et...
Ouais, carrément, bah, je pense que ça passe comme une lettre à la poste. Hein. Tenez-nous au courant surtout, hein, si vous envoyez la lettre, qu'on suit ça de très près. Et pourquoi je parle du coup de première saga et peut-être le début d'une autre? Parce que, bon, bien sûr, après cette tourmente, tout le monde était là pour dire virer le CEO, qui est peut-être le seul dans le milieu du jeu vidéo avec l'étiquette du very bad guy. Parce que du coup, entre ce qu'il a fait avec EA Games et là ce qu'il vient de faire avec Unity, il commence à avoir une sacrée réputation, mais pas la bonne. Plutôt la réputation que personne ne veut avoir, plutôt de la personne qu'on ne veut pas croiser dans les couloirs. Donc, mais quoi qu'il arrive, c'est pas lui tout seul en son nom propre qui a décidé de tout ce qui s'est passé sur Unity. C'est pas lui qui a imposé sa vision à tout le board et qui a dit voilà, maintenant ce sera comme ça, que vous soyez content ou pas, ça sera comme ça. Et puis après, qui s'est pris la tourmente qu'on connaît. Donc, OK, ils ont fait partir le CEO parce que tout le monde demandait sa démission. On rappelle
Oui.
qu'Unity essaye, quoi qu'il arrive, de regagner la confiance des développeurs parce que du coup, quoi qu'il arrive, ils ont quand même un gros problème monétaire. Donc ça, c'est faut le garder en tête. Et donc du coup, tous ceux qui ont été d'accord avec John Riccitiello concernant cette nouvelle politique de monétisation, bah, sont encore présents dans le board. Donc bon, c'est un pansement. On verra comment les développeurs réagissent par rapport à ça et on verra les prochaines annonces de Unity. Mais c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. On verra
Oui,
ce
c'est
qui
peut-être un peu. T'as raison, et puis ça paraît un peu facile de tout remettre sur lui, parce que même si, voilà, comme tu dis, il n'est pas forcément aimé, qu'il a un antécédent chez EA qui ne joue pas en sa faveur, clairement, oui, il n'a pas pris la décision tout seul. J'imagine, dans une entreprise comme Unity, c'est pas lui qui a décidé un jour, tiens, on va mettre ses taxes, balancer ça sur Twitter ou sur X.com maintenant, qui disant, voilà, on va balancer ces infos et les gens prendront ça comme ça, quoi. Je pense que peut-être qu'il n'était même pas pour, quoi. Mais il a servi de fusible pour dire, bon, c'est peut-être le dernier élément pour moi. Hein. Je pense que c'était le dernier élément pour regagner la confiance des devs, pour revenir chez, pour refaire confiance au moteur Unity, parce que c'était l'élément, on va dire, un peu visible publiquement sur lequel toute la
Oui.
faute était concentrée en disant, bah oui, c'est lui, c'était la figure publique qui a porté ces décisions. Et même si il n'était pas tout seul à décider, le fait qu'il parte, ça rebat un peu les cartes et dire, OK, lui, il n'est plus là, ils sont revenus sur la décision. C'était vraiment la dernière chose voilà, qui restait pour que les gens reprennent un peu confiance dans le moteur Unity.
Alors, reprennent
Ouais.
confiance, oui, par contre, en demi-teinte, parce que je pense que dès qu'ils vont bouger une oreille, on va tous monter au créneau pour voir de quelle manière ils ont bougé cette oreille et que le moindre faux pas sera sévèrement puni. Alors, sauf si y a une amnésie générale d'ici un an, comme souvent ça se passe, hein,
Oui. Moi,
mais.
je suis plutôt confiant sur le fait que les gens oublient vite. Hein. De toute façon, tu le vois en public, un peu en
Ouais,
politique, je veux dire.
malheureusement, c'est vrai qu'on oublie vite les choses négatives. Alors, des fois, tant mieux, mais là, c'est vrai qu'il faudrait essayer de garder en tête qu'ils ont quand même, je crois, modifié leur CGU,
Ouais, c'est les conditions du général d'utilisation. Ouais.
d'utilisation pour pouvoir les modifier à tout moment, hein, je crois, hein,
Ouais.
sans souci.
Oui.
Enfin, je crois, je suis pas sûr de ça, je suis plus sûr.
Après, ils ont quand même, oui, pour la confiance. Donc, juste pour rappel, après tout ce cataclysme Unity, ce qui a vraiment été décidé et qui est plutôt en faveur des développeurs indépendants, des petits comme nous, hein, je pense, Benjamin, c'est surtout le fait d'avoir enlevé le tiers plus, Unity plus, qui était à 35 $ par mois environ, pour tout rabattre sur le personnel qui est devenu gratuit et sans les limitations qu'on connaissait avant. Donc le personnel qui est complètement gratuit, on n'a même plus besoin d'utiliser les splash screens, ça c'est vraiment un point qui est positif pour les devs. Et l'autre point, c'est aussi que les conditions de générale d'utilisation s'appliquent aux versions des moteurs. Donc si on a une version de 2022 et qu'on a le LTS et qu'on a accepté ces conditions d'utilisation, elles ne peuvent pas être changées sur la prochaine version du moteur et ne sera pas appliquée rétroactivement sur la version du moteur qu'on utilise. Donc si par exemple on n'est pas d'accord sur un changement tarifaire qui vient par la suite, on peut très bien décidé de rester sur la précédente version du moteur et pas upgrader. On ne bénéficiera pas de toutes les nouveautés et tout ça du prochain moteur, mais au moins on est sûr de ne pas se faire avoir par un changement politique tarifaire qui a été
Oui,
qui était
c'est
le
sûr.
cas ici avant ces grands changements. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis le côté aussi, bah, la tax unity sera toujours là, mais c'est capé un maximum. Et aussi, c'est sur la déclaration des développeurs. Donc quand même beaucoup de choses qui ont été revues. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est pour le prochain CEO. Enfin, on rigolait tout à l'heure en disant postuler, mais moi, je n'aurais pas postulé et travaillé pour Unity et devenir le CEO parce qu'en gros, il faut regagner la confiance. Alors ça, c'est déjà un énorme boulot, et en même temps, il devra rétablir la situation financière d'Unity qui est pas du tout positive, parce que oui, ils font du cash, mais ils sont pas rentables. Et donc, il faut que le PDG qui est arrivé sorte un peu de cette logique de capital risque où tout était financé par des VC, des investisseurs, et qu'il n'y avait pas de rentabilité à court terme. Donc, il faut qu'il arrive à tourner le business model d'Unity pour que ce soit rentable tout de suite. Donc, honnêtement, je vois pas comment. Enfin, je sais pas si toi, t'as une piste, mais.
Non, alors non, j'ai absolument pas de piste, je n'ai absolument pas le niveau pour gérer ce genre de choses, mais par contre, je vois bien un CEO qui sera là peut-être 3-4 ans, le temps de faire gilet pare-balles pour le prochain, c'est-à-dire ils vont peut-être prendre des dispositions drastiques, peut-être encore licencier
C'est
des
vrai.
gens. Il va peut-être mettre en place des systèmes pour tester, voir comment on va réagir et ainsi de suite. Et puis après, partir, quand tout aura été un peu déterré et testé et tout, puis une autre personne arrivera un peu comme le chevalier blanc et remettra de l'ordre et peut-être qu'il tu vois, en deux temps peut-être. Je me dis peut-être
Tu
que ça
penses
sera
qu'il y
en deux
aura
temps.
encore un CEO, tu vois, qui va passer, c'est ça, tu penses?
Oui, un peu comme en politique, où quand il y en a un qui est décrié, montré du doigt, t'en mets un autre que tu diriges dans l'ombre et après tu reviens sur le devant de la scène ou t'en mets un autre sur le devant de la scène qui est tout propre.
Enfin, moi, tout ce que je peux souhaiter, en tout cas, bah, c'est. Oui, peut-être que tu as raison, mais en tout cas, pour la personne qui arrive, ça va être vraiment un gros challenge. Et c'est.
Bon courage.
Ouais, bon courage. Après, il y a un exemple moi, frappant quand on joue un peu toutes ces histoires. Vu que je fais du. Dans mon temps libre, et que ma passion, c'est du rétro podcasting, du coup, ça permet de revivre l'histoire depuis ces 10 dernières années à travers des podcasts jeux vidéo, tech, etc. Le parfait exemple pour moi, c'est ce qui s'est passé chez Microsoft. Où avant, en gros, je sais pas si tu t'en souviens, avant Satya Nadella, qui est l'actuel CEO de chez Microsoft, c'était Phil Spencer qui était l'ancien. Non, c'est ça, hein, si je me trompe pas, c'est Phil Spencer, non, qui était l'ancien.
Je te crois sur parole.
Non, attends, peut-être que je me trompe, c'est pas Phil Spencer, si, c'était CEO Microsoft, mais je ne me rappelle plus celui qui était là avant, hein, tu vois, j'ai un trou de mémoire. Alors, Phil Spencer, c'est celui qui actuellement dirige l'Xbox Game Studio, donc c'est l'actuel dirigeant de la partie Xbox, mais non, l'ancien CEO, c'était Steve Ballmer, pardon, voilà, je me perdais un peu dans les noms, et Steve Ballmer était un peu particulier chez Microsoft, et il portait un peu toute la responsabilité des différents échecs qu'avait connu Microsoft à l'ère avant 2014. Tu vois, vers 2010, par là, en fait, Microsoft était en crise. Enfin, je sais pas si les gens se souviennent un peu. Les gens n'aimaient pas du tout le Microsoft, le Windows qui était sorti. C'est la partie mobile, ils étaient complètement passés à côté. Les Windows Phone, tout ça. Et dans le jeu vidéo, c'était aussi très compliqué parce qu'il est sorti à Xbox One. Alors, je sais pas si tu te souviens de l'annonce de la Xbox One à
Non,
l'E3.
redis-moi.
En gros, c'était fallait être online constamment. Et il fallait, tu pouvais, c'était digital 100%. Tu vois qu'il y aurait plus de. En gros, je crois qu'il y avait un truc du style, tu pouvais plus avoir de version physique et que tout devait être. En fait, tout devait être taxé, tu devais avoir ta console online. Si tu n'étais pas online, tu pouvais pas jouer. Et tu pouvais plus prêter de jeu, en gros.
D'accord.
T'achetais ton jeu, et voilà. Et alors, autant te dire que ils ont fait leur annonce, bien sûr, avant la PS4. Hein.
OK.
Et là, il y avait la pub énorme que Sony avait faite à ce moment-là en disant comment se prêter un jeu sur PS4. Ils avaient fait un troll de l'annonce post-suite à l'annonce de Microsoft en mode tiens, ils ont fait une vidéo sur YouTube où un gars il prend sa boîte de jeux PS4 et il le file à un autre pote. Et voilà, ça se marche comme ça, le
Bah
présent.
donc du coup un peu ce que tout le monde a fait avec Unity quoi.
Exactement.
Finalement,
Et ça fait.
dès qu'il y a une opportunité, ils y vont.
Et Steve Ballmer a sauté. Tu vois, Steve
Ok.
Ballmer a fait un peu cet effet fusible. Il a sauté chez Microsoft et Satya Nadella est arrivé. Et dans une situation assez critique, hein, pour Microsoft, la Xbox One ne se vendait pas du tout. Microsoft était à la ramasse partout, sur le mobile, sur Windows. Enfin, tu vois, il y avait plein de crises parce que c'était à l'époque aussi, tu as tous les tablettes qui arrivaient, qui prenaient la part de marché des PC. Et maintenant, Microsoft, c'est un gros poids lourd. Par la vision que Satya Nadella a apportée il y a, tu vois, il y a presque plus de 10 ans, en disant, nous, on va aller vraiment sur le cloud et sur l'IA. Et ça a payé, tu vois, maintenant, ChatGPT, même les DALL-E, etc., c'est tout Microsoft derrière, quoi. Et ils sont, c'est la même, même chez Google, quand est arrivé ChatGPT et tout ça, chez Google, c'était la crise. En interne, en disant, attendez, là, il y a un moment de crise, on se refocus tous, il faut vraiment qu'on arrive à sortir de l'IA de chez notre côté parce qu'on se fait cramer par Microsoft. Et du coup, tout le monde parle de Microsoft maintenant et c'est devenu tellement un poids lourd dans l'industrie du cloud, l'industrie même du jeu, enfin, tu vois, avec les Game Pass. Enfin, je sais pas si tu as un abonnement Game Pass, mais je sais
Mais
pas
du coup,
si.
est-ce que c'est pas une transition toute trouvée pour notre prochaine news que tu es en train de dire?
Bah, le deal, et oui, sans faire exprès, mais c'est ça, tu vois, c'est subtilement apporté, amené. Et enfin, bah, du coup, ça clôture un peu aussi pour finir un peu sur cette partie Unity. Moi, je leur souhaite que ça, quoi, que ça arrive dans cette vision positive où le prochain CEO, il faut qu'il trouve vraiment une rockstar. Enfin, après, tu vas me dire, Satya Nadella, c'était pas une rockstar avant d'être chez Microsoft. Enfin, il a fait toute sa carrière chez Microsoft. C'était un ancien de Microsoft. Il connaissait très bien la boîte quand il a pris le poste de CEO. Et il a réussi, justement, en connaissant vraiment l'ADN et tous les travers qu'avait subi Microsoft, parce qu'en fait, Microsoft à l'époque, c'était vraiment plein de petites parties, des cellules qui travaillaient un peu de façon isolée, sans vraiment de concertation, sans vraiment de vision, tu vois, directrice. Et lui, il a ramené tout ça pour dire, voilà ce qu'on va faire. Et ça, c'était vraiment sa force. Peut-être qu'Unity, il faut qu'il ait quelqu'un de cette façon qui va arriver à rentabiliser tous les investissements faits côté Unity et aussi à redonner confiance aux développeurs, quoi. Mais oui, mais tu as raison. Alors, sur la prochaine news, on va reparler de Microsoft et cette fois-ci, c'est qu'ils ont enfin fini leur deal avec le rachat de l'Activision Blizzard King, qui a duré combien de temps? Je sais même plus quand est-ce que ça a démarré ce truc.
Il y a plusieurs années là.
Bah, je dirais au moins plus d'un an.
Ouais.
Ouais, je crois que il y a au moins un an et demi, je pense qu'ils avaient annoncé le rachat et qu'ils avaient l'intention de racheter.
Et sachant que là, ça a été clos, mais ça ne sera disponible que 2025, je crois.
Effectif. Ouais.
Ouais, c'est effectif 2025 de mémoire. Le temps, j'imagine, que tout se fasse. Bref, sûrement
Ouais.
plein de paperasses juridiques, mais.
Ouais, mais je pense qu'il y a peut-être des premières actions qui vont arriver à partir même de l'année, fin d'année, début d'année prochaine. Enfin, il y aura, tu vois, des ajouts du catalogue dans les jeux et tout. Je pense que c'est ce qu'ils avaient fait pour Bethesda, par exemple, tu vois, quand ils avaient racheté. Après, vraiment quelques semaines après l'annonce, tu vois, il y a déjà les jeux de Bethesda sur le Game Pass, quoi. Donc
Ouais.
peut-être qu'il y aura des choses qui vont prendre plus de temps en interne pour structurer et tout ça, pour le fonctionnement. Mais tu vois, vraiment pour le consumer, enfin, l'utilisateur final, il va peut-être avoir déjà des résultats de ce rachat qui, rappelons-le, proche de 70 milliards de dollars.
C'est énorme.
C'est un des plus gros rachats historiques dans même toute société, au-delà même du jeu vidéo confondre. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Je crois qu'il y a Facebook qui fait racheter pour WhatsApp il y a quelques temps de ça. Déjà, je trouvais ça énorme. Alors, c'était déjà énorme. Mais ouais, je me rappelle plus combien ils avaient racheté WhatsApp par Facebook. Tu te rappelles, toi? Non, c'était.
C'était plusieurs milliards aussi. Par contre, je suis en train de me dire que 70 milliards, bon, déjà, je pense que si on convertissait ça en temps, ce serait juste fou. Mais c'est 4 fois et demi moins que la fortune de Elon Musk.
Oui,
Donc, ça
ça.
aussi, c'est
Tu veux dire qu'Elon Musk
démentiel.
aurait pu racheter facilement Activision Blizzard King?
Ouais, plutôt que de racheter Twitter.
Twitter, ça lui aurait été plus rentable, plus sûrement, je pense.
Mais
Ouais.
par contre, il y a quelque chose quand même qui est assez fou avec ça, c'est que en rachetant Activision Blizzard, ils ont bah, le meilleur, le plus gros MMORPG jamais sorti.
Ouais.
Ils ont la plus grosse référence du STRR avec StarCraft 2, parce qu'aujourd'hui, bon, il y a des concurrents qui arrivent, mais en e-sport et puis même en jeu pur, il n'y a personne qui tient la dragée à StarCraft 2. Diablo, quoi qu'on en dise, bon, même si maintenant ils ont de sérieux concurrents en hack and slash, ça reste quand même une référence absolue et un style absolu. Et puis, côté mobile, avec du parce que, bien sûr, on dit toujours Activision Blizzard, mais il ne faut pas oublier que c'est Activision Blizzard et King. King, qui à l'époque avait été racheté, je crois, 4 ou 5 milliards par Activision Blizzard, et non pas Activision Blizzard. Et, bah, et du coup, là, on a quand même la Rolls-Royce du casual game qui génère un pognon incroyable.
Ouais, non, mais c'est ça,
Et sans parler bien sûr de Call of Duty. Enfin voilà, Call of Duty. Alors, moi c'est vrai que ça, ce genre de jeu,
ouais.
j'ai un peu lâché, mais bon, je
Ouais, c'est un
pense que Call of
peu.
Duty, c'est un peu la. Est-ce que Battlefield est encore dans la course? Parce qu'il me semble que le dernier était catastrophique.
Je sais pas, vu que c'est pas trop le style de
Ouais, voilà.
jeu sur lequel tu vois, je passe du temps, donc je sais pas
Mais
si.
quoi qu'il arrive, si on parle d'FPS de grande envergure, on pense à Call of Duty et Battlefield, quoi qu'il arrive. Et donc du coup, maintenant, ils ont aussi Call of Duty. Ce qui fait que Microsoft, mais c'est son catalogue est démentiel.
Non, et puis il pèse vraiment, c'est pour ça que ça a beaucoup traîné aussi, parce que tout le monde avait peur qu'ils deviennent un peu qu'ils deviennent dans une situation de monopole, notamment Sony, hein, qui flippait grave, en disant bon, comment on va faire maintenant avec nous, notre côté, avec nos catalogues. Donc c'est pour ça que Sony aussi a vraiment mis des bâtons dans les roues pour ce rachat, pour montrer par A plus B que s'ils se feraient racheter, parce qu'il ne faut pas se leurrer, enfin, Call of Duty, c'est PlayStation quoi. Tu veux jouer à Call of, il faut que tu aies une PS4, PS5, enfin voilà, la PS6, c'est ce qui fait tourner la PlayStation en gros entre FIFA et maintenant qui s'appelle plus FIFA mais FC et Call of Duty, c'est les deux plus gros titres qui font tourner la console de Sony. Et eux, ils le voient bien arriver. Si tu m'enlèves, on va dire, un de mes plus gros poulets aux odeurs, forcément, je vais pas être content. Donc ils ont mis plein de barrières à Microsoft pour que ce soit pas facile ce rachat mais c'était intéressant du coup parce que ça nous a montré quand même au grand public, ça a mis à jour toutes les politiques, toutes les discussions dans les couloirs pour justement savoir comment les choses se passaient, les deals avec les éditeurs, les développeurs, comment ils négocient. Et puis là, bon, du coup, Sony avait racheté pas mal de studios tiers aussi pour grossir son catalogue de jeux à lui. Donc il y a pas mal de choses qui ont bougé aussi, qui a forcé Sony à bouger. Et dans le deal de rachat, Microsoft, pour montrer sa bonne volonté, a décidé de laisser toute la partie streaming de ses jeux, notamment les jeux Activision Blizzard aussi, surtout, pas les jeux de Microsoft, mais plutôt toute la partie Activision Blizzard King, de la partie cloud gaming streaming à Ubisoft. C'est Ubisoft qui détient les droits pour le streaming, ce qui est un peu bizarre, mais en
Là,
gros,
parce
c'est
que
pas.
du coup, on est d'accord que Sony, bien qu'ils, enfin, ils ont rien eu, quoi.
Bah, ils ont eu la promesse que Activision Blizzard King, enfin la partie Call of Duty surtout, serait toujours cross-platform pendant X années. Donc je ne sais plus si c'est 4, 5 ou 10 ans. En gros, pendant 10 ans, ils ont une garantie que Call of Duty sortira toujours sur la PlayStation.
Ouais, et ben, donc ça veut dire qu'ils ont que 10 ans pour trouver une alternative, parce que du coup,
Moi,
dans
je
10 ans, on
serais.
peut être sûr qu'il n'y aura rien, quoi.
Ouais, moi, je
Un peu.
serais Microsoft, je changerais le nom, je mettrais Modern of Duty.
Ah non,
Call
parce
of War.
Oh non, bah, j'ose
Donc,
espérer qu'ils ont géré quand même ça et qu'un truc aussi simple ne fonctionne pas quand même.
sais pas, hein, des fois, tu vois, regarde. Et en plus, est-ce que maintenant les gens sont rattachés à une licence ou pas? Tu vois, la preuve, FIFA, ils ont changé de nom, mais ça continue à se vendre parce que de toute façon, t'as pas de FIFA en face. Donc, Call of Duty, si tu gardes la même chose, mais tu changes de nom, ça va peut-être vendre. Mais bon, oui, c'est vrai que ce serait. Et puis,
Ouais,
je pense que selon la. Ouais?
parce que FIFA, ça leur permet de faire un reboot, parce que je pense qu'il devait y avoir quelque chose un peu de entre FIFA 2020, 2021, 2022. Il y avait comme d'hab pas cette différence, mais bon, on en sortait un chaque année parce que voilà, c'était le classique. Ça leur permet de faire un reboot, et Call of Duty, de mémoire, ils l'ont déjà fait, leur reboot. Je crois qu'ils ont déjà sorti un Call of Duty Modern Warfare qui est le prochain qui revient à l'époque du premier Modern Warfare,
Oui, et
quelque
puis
chose comme ça.
ils ont tous les tout sous-genres, tu vois, les sous-genres, Les Black Ops, les Modern Warfare, enfin, tu vois, il y a tellement de déclinaisons
Ouais, voilà.
qu'ils
Donc, c'est
ont.
pas la même, pas même délire que FIFA, quoi.
Oui, et puis FIFA, c'est surtout qu'ils n'avaient plus, ils avaient pas envie de payer les licences à FIFA, quoi. Enfin, là, c'est que FIFA réclamait plus d'argent, ils ont dit, bah non, donc gardez votre titre, nous, on va juste renommer notre jeu, et puis ça ira très bien. Et du coup, voilà, FIFA se retrouve avec moins d'argent. C'est un peu idiot. Ils auraient pu garder ça et négocier avec EA. Ils ont préféré dire, bon, ben non, vous donnez plus d'argent, on négocie pas. Donc, ok, gardez votre licence. Nous, on va juste changer de nom. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Et ils continuent à vendre. Je pense pas. De toute façon, il n'y a personne en face, tu vois. Si tu vois pas,
Ah oui,
qu'est-ce
parce
que.
que j'ai lu un article qui disait que c'est le meilleur record de vente, le nouveau
FC
FIFA.
23.
Donc,
FC
ouais, FC
24, c'est
23.
ça?
Je crois
Voilà,
qu'il s'est vendu à 20% de plus que donc Final Fantasy, n'importe quoi.
FIFA,
FIFA 2022.
ouais.
20% de plus que FIFA 2022 sur le premier mois de sortie, là.
C'est le 2023, ouais, parce que c'est le FC 24. C'est en fait chaque
Ah oui,
année ils
d'accord, oui,
font
c'est vrai,
c'est
c'est vrai. Ouais,
l'année d'après qu'ils sortent, ouais. Mais du coup oui,
pardon.
ça a explosé les chiffres.
Ouais.
Pff, moi ça m'étonne pas, enfin de toute façon qu'est-ce que t'as comme jeu de foot sérieux en face? Bah, t'as peut-être encore du PES, mais non, c'est comment ça s'appelle maintenant déjà? C'est toujours PES.
Mais ça existe encore? Je croyais que c'était fini.
Bah, je crois que ça s'appelle eFootball maintenant. Et c'est devenu une sorte de game as a service où tu peux tu vois, t'as ton jeu et ça évolue au fur et à mesure, quoi.
D'accord.
Donc, ils ont sorti sur ce modèle là, le eFootball de Konami, ouais, qui est un peu le seul concurrent sérieux de FIFA, mais c'est très très loin de derrière. Il y a des gens comme ça où en fait t'as très peu de concurrence, comme le basket, voilà, t'as NBA, 2K, et puis
Oui, voilà.
t'as rien d'autre. Avant, il y avait Electronic Arts qui faisait NBA Live, mais maintenant ils ont arrêté. Ils ont dit, bon, on n'arrive pas à tenir la qualité de NBA 2K, donc c'est eux qui dominent. Et FC, ça devient un peu le leader, quoi. Donc c'est vrai que pour cette côté licence, ouais, Activision, ils ont quand même réussi cette sortie, enfin surtout pour Bobby Kotick, hein, je réfléchissais, tu vois, au CEO d'Activision Blizzard King qui était assez critiqué. C'est avant le rachat où il y a eu des problèmes de en interne de comportement, etc. Enfin, qu'il y avait quelques levées de bouclier de la part des employés d'Activision Blizzard King avant que Christophe décide de racheter. Et je pense que c'est ça qui a aussi accéléré un peu le rachat de la boîte par Microsoft. Et il devrait rester jusqu'à la fin de l'année, selon l'article sur lequel je suis tombé. En fait, Bobby Kotick resterait aux commandes d'Activision Blizzard King jusqu'à la fin 2023. Et après, ce sera complètement intégré dans l'écosystème Microsoft. Donc voilà, après. Je suis curieux de voir quand même comme la partie cloud gaming qui est laissée à Ubisoft va être tu vois va être gérée parce que
Ouais, la qualité aussi. Bah,
c'est vrai.
on
Après,
verra.
Microsoft pour le coup tu vois, je comprends que Sony avait quelques peurs ou d'autres personnes aient peur du monopole de Microsoft sur l'usage qu'ils peuvent en faire et de faire des exclus et de pas sortir sur d'autres plateformes les jeux. Et oui, chose importante, c'est du coup, enfin, Microsoft a quand même la réputation d'être assez cross-plateforme. Ce qui est, moi, j'ai jamais compris cette politique, mais ça paye. Par exemple, Microsoft, ils ont Windows, mais ils ont toujours maintenu une version Office sur Mac. Alors que si vous voulez le monopole, ils pourraient dire non, si vous voulez Office, utilisez que sur Windows, quoi. Non, il y a quand même une version d'Office sur Mac.
D'accord.
Et la même chose se passe sur Minecraft, ils l'ont racheté, et c'est le jeu où tu peux jouer de presque partout. Après Doom, ok, Doom, tu peux jouer sur même des panneaux, des panneaux de commande industrielle et tout ça, mais Minecraft, tu le retrouves partout sur Switch, sur PlayStation, sur toutes les plateformes où tu peux jouer à Minecraft, quoi. Et ils n'ont jamais dit, bon, on l'a racheté, c'est à nous, on le lock. Et ils ont toujours cette politique d'ouverture qui est assez surprenante, mais qui a l'air plutôt de bien marcher. Et même à l'époque où du Windows Mobile, Windows Phone, etc., ils essayent toujours de mettre tous leurs apps, tous leurs softs sur les autres devices mobiles, ce qui a peut-être pas forcément joué en leur faveur parce que du coup, tu voulais avoir accès Office, tu n'étais pas obligé d'avoir Windows Phone, quoi. Tu pouvais avoir un iPhone ou un Android et ça peut toujours marcher. Donc, rien ne poussait forcément à l'adoption. Par contre, là, ils ont vraiment réussi quand même avec, en suivant cette politique, à que ça marche, quoi. Donc, ils ont quand même des gens qui continuent à acheter Xbox, à s'abonner au Game Pass, à utiliser leur service. Et c'est pour ça que je suis pas trop inquiet sur le fait qu'ils lockent leur titre, honnêtement. Je pense qu'ils veulent garder cette ouverture parce que ça, ils ont cette logique de dire bon bah plus de gens utilisent nos services, plus ça va leur apporter de toute façon voilà de l'argent aussi et ça sera connu, ils seront connus quand même quoi. Et oui, chose importante, c'est que grâce à ce deal, en théorie, les jeux de Microsoft devraient arriver sur la Switch grâce au cloud. C'était, ça fait partie aussi du deal, c'est qu'ils ont dealé avec Nintendo en disant qu'ils garantissaient que ils avaient acheté Activision Blizzard King, ils feraient en sorte que toutes les licences comme Call of Duty, etc., arriveraient probablement par Cloud Gaming. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de gens qui fantasmaient d'avoir un Xbox Game Pass sur Switch, devraient sûrement arriver dans quelques temps, quoi.
D'accord, bah ça c'est incroyable, effectivement.
Ce serait vraiment une bonne chose, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais pas trop traité cette news, tu vois, dans les différents épisodes de podcast, parce que c'était que des trucs de rumeurs, de procès, de machin. Voilà, je me disais que c'était feuilleton un peu, c'était feu de l'amour, et j'avais pas envie de forcément faire ça en fil rouge, parce que je trouvais que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. J'attendais vraiment une validation, confirmation. Là, on est sûr, il y a rien qui pourrait bloquer maintenant le rachat de Activision Blizzard. Et donc pour les développeurs, je pense que c'est quand même une bonne chose aussi, parce que mine de rien, bon, ok, on parle des consommateurs de jeux, mais pour les développeurs, ça veut dire que ben, avec une telle puissance, avec une telle voilà, telle centralisation, il y a de plus en plus de place, je pense, pour des petits indés qui veulent sortir du lot. Dire bon, on propose différentes choses parce qu'il faut pas se leurrer. Je pense que ce qui va se passer, c'est aussi ben, ce côté industriel, c'est que tu vas retrouver toujours les mêmes jeux, ça a toujours continué à tourner un peu rond. Et du coup, tu vois, comme Sony, etc., qui cherchent des pépites à créer des nouveaux studios, à essayer tu vois, de trouver des choses différentes, vont devoir aller chercher peut-être du côté des indés pour se démarquer, quoi. Vu qu'ils
Bah
peuvent.
écoute, l'avenir nous le dira.
Je sais pas si tu voulais rajouter d'autres choses sur ce tactu ou on passe à la
Non,
discussion.
j'aime bien la transition avec ce qu'on va parler maintenant, par contre.
Alors, je suis trop fort en transition là. Pour cet épisode, je ne le fais pas exprès, mais ouais, effectivement, on passe sur les Atari. Oui, ça existe toujours, Atari, hein, pour ceux qui se demandent, même si on les voit moins souvent.
C'est ça que je trouve incroyable avec ce news. Vas-y, je te laisse continuer.
Atari demande de l'aide aux développeurs indépendants justement pour ressusciter leur ancienne licence qui s'appelle Bubsy. Bubsy. Ah, Bubsy. Bubsy. Bon, il faut que je change de nom, je pense, pour la licence. Bubsy. Je sais pas si tu avais joué
Bubs.
à Bubsy à
Non,
l'époque.
pas du tout. Et même la mascotte me dit absolument rien.
C'est vrai? Ouais. Pourtant, c'était assez. Enfin, moi, j'ai joué un peu, mais je savais pas forcément quoi. Enfin, c'était une sorte de. C'est quoi? C'est un lynx, on pourrait dire, ou un chat ou un lynx. Bon, c'est
Une
pas hyper
sorte de
clair.
renard, non?
Ouais, renard, lynx. Bon, je suis tombé sur la page Wikipédia qui me parle d'un lynx roux appelé Bubsy. Donc.
Un furry, finalement.
Et en fait, qui était un peu la mascotte d'Atari, qui en fait,
Alors,
c'est. Ouais.
c'était en 93, j'avais 5 ans. J'ai une excuse quand même.
Ah oui. Ouais, j'étais un peu plus grand et je pense, pas beaucoup plus, mais j'avais vu Bubsy Bubsy et en fait. C'était à la grande époque où tout le monde cherchait sa mascotte, tout le monde cherchait un peu à avoir. Bon, il y avait Sonic chez Sega, Mario chez Nintendo, et Bubsy était inventé un peu dans ce genre de platformer, un peu à l'Adventure Gym, un peu à tous ces genres de platformer de l'époque, où il y avait aussi une autre licence qui est un peu, je pense, qui était restée un peu discrète, mais c'est le lapin de Jazz Jack Rabbit. Je sais pas si ça te parle aussi. C'est un lapin, cette fois-ci un lapin vert. Qui s'appelle Jazz. Non, bon, je
Non, ça me parle pas du tout. Et je
sais
suis
pas.
en
Ça,
train de regarder les images de Bubsy Pawn of Fire qui est sorti en 2019.
ouais,
Et c'est
ça fait pas rêver.
compliqué quand même, hein. C'est compliqué de se dire qu'en 2019, ils ont sorti quelque chose comme ça. Alors on voit que la cible, c'est les moins de 12 ans.
Ouais.
Mais bon, le traitement, il est pas là, quoi. C'est très compliqué ce qu'ils ont fait quand même.
Ouais, c'est vrai que c'est des vieilles licences qui n'étaient pas forcément les plus les plus, comment dire, les plus mainstream. Il y a des gens qui ont joué, hein, comme voilà, moi tu vois, Bubsy, j'ai un peu joué, mais j'ai pas plus accroché que ça. J'ai beaucoup plus joué à Jackrabbit, mais c'est vrai que si demain tu me sortais une version remaster de Jackrabbit, bon, peut-être que j'achèterais par nostalgie, mais c'est clair, pour le nouveau public, c'est peut-être plus compliqué de s'approprier ces
Bah ouais.
licences. Mais en fait, la démarche d'Atari est quand même intéressante de dire, ils ont racheté plein de boîtes et dans tous leurs achats, ils ont pu récupérer la licence Pepsi qui traîne depuis quelques temps dans leur catalogue. Ça fait bon, c'est vrai que j'avais pas vu passer la version 2019, mais ça fait presque, ouais, presque 20 ans. Ils disent que ça a vraiment pas eu un bon traitement et voudraient demander du coup de l'aide aux développeurs indépendants pour proposer, pitcher des jeux pour ressusciter la licence Pepsi de façon un peu sérieuse. Je pense que ce qu'ils veulent derrière, c'est surfer un peu sur les revivals des grosses licences de plateformers 3D qui avaient lieu là comme bah, il y a quelques temps déjà, mais avec Crash Bandicoot, Spyro, Ratchet & Clank, qui ont vraiment eu des remakes dignes de ce nom. Je sais pas si toi tu as pu tester un peu ces remakes de.
Bah, alors j'ai pas testé, mais j'ai pu voir le dernier Ratchet & Clank qui est incroyable, bourré d'Easter eggs, notamment un qui m'a beaucoup plu parce que Ratchet & Clank c'était aussi Jack and Dexter, c'était vraiment les deux qui s'opposaient, et du coup dans Ratchet & Clank Rift, je sais plus quoi,
Rift Apart, je pense.
voilà Rift Apart, et en fait bah, le principe c'est que tu vas ouvrir des portails entre des mondes, et à un moment tu vas avoir Jack and Dexter qui vont passer. Et donc
Énorme.
ça c'est vraiment
Ok.
super cool.
Ouais.
Le clin d'œil est génial. Et voilà. Et Crash Bandicoot aussi excellent. Enfin, j'avais bien aimé. Et Spyro, je l'ai
Spiro.
extrêmement poncé sur PS1. Et
Ouais.
par contre, je n'ai pas vu la qualité du remake. J'espère qu'il y a été à la hauteur.
Ouais, alors moi j'avais eu du mal avec Spyro sur PS1 parce que le contrôle j'ai trouvé trop dur. C'était de bouger le dragon. Je trouvais vraiment pas adapté le contrôle. J'avais vraiment pas accroché de Spyro, donc j'avais pas plus continué que ça. Mais Crash Bandicoot, oui, j'avais beaucoup aimé. Après, j'ai pas fait les remakes, hein, pour être honnête. J'ai vu aussi comme toi les vidéos et tout, et je trouvais ça plutôt cool. Et je pense que pour Pepsi, voilà, ils essaient de surfer un peu sur ces revivals d'anciens icônes platformer du passé. Voilà, ils aimeraient bien que les indés s'approprient ça. Alors, je pense que voilà, si vous êtes intéressé, si vous êtes un peu sur, si vous aimez bien les jeux de plateformeur et que Pepsi, bon, même voilà, si vous avez déjà joué par le passé ou même pas, vous voulez essayer de proposer un plateformeur ou vous avez un plateformeur un peu intéressant. En fait, ce qu'ils cherchent quand même, c'est une innovation, quelque chose de nouveau, pas être sur un énième jeu de plateforme. Voilà, ils veulent pas quelque chose du déjà vu, donc ils veulent vraiment quelque chose de ce qui pourrait marquer et le public. Et donc si vous avez déjà une idée de plateforme assez intéressante et sur laquelle vous pouvez peut-être appliquer l'IP Pepsi, ça peut être intéressant de leur pitcher, d'envoyer votre pitch deck avec comment Pepsi pourrait voilà être intégré dans vos idées. Vous pouvez envoyer un email sur le site d'Atari, hein, je vous mettrai le lien en note de l'émission. Vous pouvez envoyer votre pitch deck à Atari et peut-être que vous pourrez travailler avec eux parce que c'est plutôt rare. Moi, c'est vraiment la première fois que je vois un éditeur comme ça faire appel publiquement aux développeurs indépendants pour travailler sur une licence. Je sais pas.
Bah, ça c'est sûr que c'est super bien. Par contre, ça serait intéressant qu'on suive l'histoire pour savoir s'ils finissent par trouver un studio indé, ou est-ce qu'ils nous font un coup assez fourbe, où en fait ils vont faire de la veille via les
Pour voir.
propositions et après sortir leur propre jeu qui serait un melting pot des meilleures idées qu'ils auront vues, quoi. Ce qui serait
Ouais.
vraiment très moche de leur part, mais bon.
Après, je pense qu'ils ont pas les talents.
Ils ont
Alors,
rien à
dans le
gagner à
sens,
faire ça, hein, mais.
ouais, c'est ça, parce que je suis pas sûr qu'ils aient les talents et le staff et les ressources pour le faire. Souvent, enfin, on a cette idée-là, mais quand tu vois l'écosystème Atari actuellement, voilà.
Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr, mais bon, sait-on jamais, quoi. Et
Ouais.
si jamais vous êtes en recherche de plateformeur et que vous vous dites comment on peut rénover un peu le genre, je vous invite à regarder Pizza Tower sur Steam,
D'accord.
qui est un énorme carton, qui a
D'accord.
donc on joue un pizzaiolo italien, et tout va se baser autour de l'univers de la pizza, que ce soit le level design, le caractère qu'on évolue. C'est ultra dynamique. C'est sorti le 26 janvier 2023. On est sur de l'extrêmement positif. 37 000 reviews. Donc, un hit. Et je crois que c'est seulement deux personnes derrière. De mémoire, parce que je m'étais renseigné, c'était quelque chose comme 4 ans d'évolution avec beaucoup d'itérations. Je crois que la personne, elle a tout fait sauf le son. Il est vraiment plébiscité pour son level design, son dynamisme, enfin bref. En tout cas, si vous vous demandez un peu qu'est-ce que ça peut être un platformer qui est innovant, et ben regardez Pizza Tower, on dira un Tex Avery aux hormones, et c'est vraiment vraiment excellent.
D'accord, énorme. Écoute, et en plus je vois qu'il a été fait avec le moteur de jeu Game Maker. Donc voilà, pour les gens qui s'intéressent, moi je jouerai toujours, j'aime bien regarder toujours quand il y a un jeu qui cartonne comme ça, quel type de moteur est utilisé derrière. Et Game Maker, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un moteur discret, mais qui a beaucoup de hits derrière et dans son catalogue, ce qui est assez surprenant par rapport à d'autres moteurs de jeu qui sont des fois un peu, voilà, un peu plus visibles, mais qui ont peut-être moins de hits. Game Maker, ils ont quand même pas mal de super gros hits derrière eux, donc c'est un super moteur, moi j'adore. Hein. En tout cas, je suis un fervent défenseur de Game Maker. Si on a une petite équipe et qu'on veut avoir des résultats assez rapidement, c'est un très beau moteur. Donc, Pizza Tower, un bon exemple. Du coup, merci.
Un excellent exemple.
Super. Écoute, je ne connaissais pas, je regarderai. Et puis, il est un peu cher, 20 euros quand même, le jeu, mais
Donc, imagine l'argent. Donc, à mon avis, cette personne va créer son studio, va embaucher des gens et va faire d'autres jeux derrière. Ouais, on lui souhaite le meilleur.
C'est cool. Bah, merci pour cette info. Et du coup, si vous voulez vous inspirer peut-être de ce qu'a dit Benjamin sur Pizza Tower ou d'autres idées de platformer un peu intéressants à amener, et que vous voulez le pitcher à Atari sur l'usage de leur licence Pepsi, n'hésitez pas, je mettrai le lien en haut de l'émission. Allez-y, si vous avez essayé, ça peut être l'occasion de concrétiser vos projets aussi.
Et en vrai, c'est quand même, je trouve, une super bonne opportunité finalement pour un jeune studio.
Ouais. Carrément. Et puis même si ça marche pas, il faut le faire. Je veux dire, ça sera un bon exercice aussi, je pense, pour les gens qui veulent.
Faire un pitch deck, c'est un sacré exercice. Ouais. C'est super comme exercice. C'est dur, surtout quand on fait son premier pitch deck, mais c'est très formateur.
Ouais.
Donc ouais.
Carrément. Je regardais Pizza Tower les chiffres rapidement. Ils ont déjà vendu plus de 1,2 million d'unités vendues. Donc c'est 20 millions de revenus. C'est pas trop mal.
Ouais, alors 20 millions, mais
de chiffre d'affaires.
Chiffre d'affaires, faut diviser par deux, mais bon, même 10 millions, hein, c'est déjà incroyable.
Ouais. C'est énorme. Ouais, c'est cool. Peut-être dernière news. Toi, tu me disais que c'était pas forcément trop concerné par ça, mais je serais quand même intéressé d'avoir ton point de vue là-dessus, Benjamin. C'est pour là, il y a pas de transition, à part le côté indé qui va se retrouver ici aussi, mais c'est le Unreal Engine for Fortnite qui est... Il y a un article intéressant sur gamedeveloper.com qui explique un peu en fait, l'envers du décor en tant que développeur indé si tu fais le choix de travailler avec le moteur Unreal Engine for Fortnite. Alors, c'est un peu bizarre de parler de ça comme un moteur de jeu. C'est plutôt un moteur de mode ou un éditeur de cartes, ou un éditeur de mode. Je ne sais pas comment je pourrais le qualifier, mais bon, c'est un éditeur. En fait, c'est la version d'Unreal Engine adapté pour faire des modes, des maps, des choses comme ça pour Fortnite, pour du contenu pour Fortnite. Et en gros, cet article s'intéresse à si vous êtes un dev indé et que vous voulez lancer dans vos studios, vous voulez faire des projets et que vous n'avez pas forcément envie d'avoir toute la panoplie d'outils d'arriver avec une base un peu vide, un peu vierge, une page blanche et de démarrer dans Unreal Engine ou sur Unity à créer un jeu. Là, vous avez déjà tout l'écosystème Fortnite avec les assets, les mécaniques de jeu, plein de les objets, etc. Tout l'écosystème est là de Fortnite et vous pouvez créer des modes de jeu. C'est pas nouveau, hein, les modes de jeu, ça existe depuis des années. Je ne sais même plus quel jeu a démarré les modes à l'époque. Il y a des modes sur Doom et tout, non, peut-être. Je ne sais pas s'il y a des...
Je ne sais pas s'il y en avait sur Doom, je sais qu'il y en avait sur Second Life,
ouais.
qui a fêté ses 20 ans il n'y a pas longtemps.
Exactement, ouais, c'était un des plus...
Si les modes, ça existe depuis très longtemps. Il devait y avoir des modes sur Red Alert, je pense, ou Command & Conquer.
Oui, t'as raison.
Sur Warcraft 3 aussi, évidemment. Oui,
Ouais, et puis bah, c'est vrai que alors je suis en train de chercher un peu en même temps, donc les modes de jeu, apparemment LoadRunner qui sort en 1983 comprenait un éditeur de niveau qui permettait de créer des sauvegarder des niveaux et les partager avec les autres. Donc voilà, c'était un peu le début de la partie mode pour un peu d'histoire, mais du coup il y a plein d'autres jeux hein, comme tu as dit, tu parles de Command & Conquer, de Warcraft 3 qui était très connu parce que mine de rien les modes, certains modes ont été beaucoup plus connu que d'autres modes. C'est un peu bizarre ma formulation, mais par exemple, je crois que les premiers Tower Defense sortent d'un mode de jeu de StarCraft 1, où à l'époque, les gens avaient créé justement ce côté où, pour le premier StarCraft, t'as un éditeur niveau de map et tu pouvais poser des tours et défendre contre des unités qui passent, quoi. Après, ça a été repris dans d'autres modes et tout. Je sais pas si j'ai des bêtises ou pas. Si tu...
Eh ben, je suis en train de me demander entre
Ouais.
StarCraft 1 et Warcraft 3, lequel est sorti en premier?
Ouais, c'est Warcraft 3, StarCraft 1 est sorti avant Warcraft 3 et en fait le mode connu dans Warcraft 3, évidemment, ce qui a été beaucoup communiqué, beaucoup, il y a eu beaucoup de publicité, c'est Dota hein, qui a été beaucoup joué, qui était un des modes les plus connus de Warcraft 3, qui est un peu
Bien sûr.
l'ancêtre de League of Legends, Dota 2, etc. Des MOBA quoi, c'était un des modes qui a été créé dans Warcraft 3 quoi. Je sais pas si t'as plus d'infos de ton côté.
Alors, moi, ce que je trouve assez hallucinant concernant les modes, et notamment de l'ère de Battle.net, c'est que, en fait, c'est fou de se dire à quel point le paysage vidéoludique aujourd'hui a été créé dans Battle.net. Parce que Dota, avant même que League of Legends apparaisse et prenne le pas sur l'Europe et un peu dans le et surtout dans le monde, bah comme tu viens de dire, en fait, Dota est arrivé sur Warcraft 3. Les Tower Defense, même si effectivement, je me rappelle avoir joué un Tower Defense un peu particulier sur StarCraft 1, sur Warcraft 3, il y en a eu énormément et notamment des Tower Defense qui ont maintenant ce qu'on peut retrouver sur Steam.
Oui.
Si vous tapez Element TD 2 notamment, vous allez trouver bah, un jeu qui est
Ouais.
sur Steam, qui a bien marché. Là, dernièrement, il y a un jeu, parce que du coup, forcément, nous, on s'est pas mal renseigné sur les Tower Defense en faisant notre jeu. Et il y a un jeu qui s'appelle Légion TD 2 sur StarCraft, qui est, en fait, pour s'il y avait des gens qui ont beaucoup poncé les mods sur Battle.net, qui est les Enforce TD. Et
Ah oui.
du coup, ces gars-là, ils en sont à bientôt 1 million de ventes sur Steam, à 20 € le jeu, donc pareil, et ils font de l'e-sport. Alors, ils font de l'e-sport à leur niveau, c'est-à-dire qu'on est sur du 800 000 € de cash prize, mais c'est déjà ça finalement. Voilà, il y a ça, enfin, il y en a énormément de jeux qui viennent de Battle.net, et ça, je trouve ça
Ouais,
assez
des
fou.
modes, ouais. Et en fait, je trouve ça un peu, c'est un peu la matrice. Là, c'est de Fortnite. À la base, c'était pas du tout un Battle Royale. C'est juste une déclinaison du jeu Fortnite de base qui était Sauver le monde, etc. C'était un shooter un peu classique que tu peux toujours acheter d'ailleurs. Hein. Une version standalone que tu peux acheter, jouer à côté de la version Battle Royale de Fortnite et qui a été inspiré par un mode de DZ, si je vous dis pas de bêtises, qui
Ah
avait
ouais,
créé
ok.
PUBG. En fait, PUBG, c'était un mode à la base d'un jeu de d'Arma, pardon. C'est pas DZ, c'est PUBG. C'est en
D'accord.
fait dans Arma, il y avait une sorte de Battle Royale qui avait été fait et il y avait la personne qui avait fait le mode avait été contactée par un éditeur pour dire bah, ok ça nous intéresse mais on fait une version standalone et comme ça le gars s'appelle PlayerUnknown d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'appelle PlayerUnknown's Battlegrounds c'est le créateur du mode qui s'appelle PlayerUnknown et du coup ils ont fait une version standalone utilisant le moteur Unreal Engine etc qui avait été ça a fait un peu polémique aussi parce que ben du coup vu qu'ils ont utilisé Unreal Engine, ils étaient beaucoup en contact avec Epic, bien avant que Fortnite devienne un Battle Royale. Et du jour au lendemain, Epic a sorti une version de leur Fortnite classique en mode Battle Royale aussi, inspiré beaucoup, beaucoup, beaucoup de PlayerUnknown's Battleground, de PUBG, et avec la puissance marketing de Epic, donc qui a quand même mieux marché du coup que PlayerUnknown's Battleground, quoi. PlayerUnknown's Battleground, en plus, c'était pas un free-to-play, donc il fallait acheter. C'était un jeu premium et tout ça. Et oui, c'est ça, c'est un mode de Arma 3. Hein, je regardais un peu ce que c'était. Et du coup, tu vois, c'était finalement une inspiration d'un mode qui a créé Fortnite. Et maintenant, Fortnite se met à faire des modes. Enfin, tu peux créer des modes pour Fortnite. Donc voilà, c'est un peu la boucle est bouclée, quoi. Donc tu peux recréer des modes, des jeux, etc. dans Fortnite. Peut-être qu'il y aura du coup des idées de gameplay ou des idées de jeux qui vont émerger, qui finiront peut-être en standalone bientôt aussi en dehors du Unreal Engine for Fortnite Editor, quoi.
Ok, bah écoute, affaire à suivre finalement, parce que du coup, c'est sorti quand exactement?
Unreal Engine for Fortnite, c'est ça?
Ouais.
Alors, je n'ai pas la date exacte de disponibilité. En tout cas, là, c'est disponible. On peut l'utiliser. La chose importante, c'est que par rapport à ce qu'on parlait de Battle.net, tu vois, des mods et tout qui étaient faits dans Warcraft 3 ou Starcraft, etc., en fait, les gens qui modaient, qui créaient des cartes, n'étaient pas rémunérés. Tu faisais ça gratuitement.
Oui, bien sûr.
Euh,
Et là, du
et
coup, ils le seront.
là, ils le sont. Donc là, Epic va rémunérer les créateurs de contenu. Ils ont lancé un programme créateur 2.0, je crois, pour parler un peu des bénéfices que tu peux générer en faisant des mods pour Unreal Engine for Fortnite. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, ils ont même lancé une game jam pour enfin, l'Epic Game Jam qu'ils font chaque année. Il y a une section dédiée vraiment pour les créateurs avec ce moteur-là, Unreal Engine for Fortnite. Tu as une section qui récompense les gens qui font des jams avec juste Unreal Engine, et tu as une autre section dédiée pour ceux qui font avec le moteur pour l'UEFN. Ce que je voulais dire, c'est surtout en fait la politique ici d'Epic, c'est d'aller chercher à gratter des parts de marché de Roblox, qui est un de leurs plus gros concurrents actuellement pour la partie jeu basée sur l'économie sociale. Enfin, c'est un peu bizarre cette formule, c'est peut-être pas le truc adapté, mais sur l'économie des contenus générés par l'utilisateur, l'UGC, User Generated Content. En gros, Roblox, c'est, enfin, pour ceux qui connaissent, si je résume un peu, c'est une sorte de Minecraft avec plein de modes, quoi. Donc, on peut créer tout plein de jeux, c'est cross-platform, PC, console, mobile, et on peut facilement créer des contenus pour le jeu, et les gens dépensent des fortunes dans tous les modes, tous les jeux, etc., qui sont créés par les gens, surtout en argent in-game, je sais plus comment ça s'appelle, l'argent du Roblox. Et c'était un des moyens, par exemple, même des mineurs pouvaient créer des contenus pour le jeu et les vendre, et les gens pouvaient acheter ça. Et ça avait été assez critiqué d'ailleurs, parce que c'était un peu du travail déguisé de mineur. Souvent, ça a été reproché à Roblox d'utiliser des mineurs pour se faire de l'argent sur leur dos. Là, du coup, l'UFN, je crois qu'ils ont faut être majeur pour pouvoir prétendre gagner des revenus. Et leur politique de revenus est assez étrange, assez compliquée. C'est pas aussi straightforward que sur Roblox, j'ai l'impression, parce qu'il faut combiner plusieurs choses. Mais l'avantage, c'est que on peut quand même faire pas mal de cash si on a des maps qui sont très jouées, qu'il y a des gens qui dépensent de l'argent même sur la boutique de Fortnite. Il y a à peu près 40% des revenus qui reviennent aux créateurs. Donc, c'est plutôt cool. Après, il faut voir dans les faits s'il y a des devs qui arrivent à en vivre, de faire des mods comme ça. Moi, je te disais en antenne avant, Benjamin, j'ai entendu un podcast où il y a des sociétés qui s'étaient montées autour de Roblox, en disant, nous, on s'est spécialisé, on a créé enfin, c'est des sociétés qui sont montées à faire tout leur business model est monté autour de faire des contenus pour Roblox, quoi. Et ça a marché plutôt bien. Donc, voilà. Peut-être qu'il y
Ouais, mais
a.
ça m'étonne pas du tout en fait, et je trouve même que c'est malin parce que sa vocation Roblox à être extrêmement amateur, enfin en tout cas dans la gestion de la création de contenu. Si toi t'arrives et que tu mets une couche pro, ouais, ça peut tout de suite donner envie à bah déjà comme tu dis, c'est comme si c'était un Minecraft avec énormément de mods. Bah déjà tous les joueurs de Minecraft, Dieu sait qu'ils sont nombreux et Dieu sait qu'ils sont jeunes.
Oui, c'est ça.
Bon, ça, c'est un mystère. J'aimerais bien un jour que quelqu'un se penche là-dessus et étudie le phénomène Minecraft, mais j'y ai joué quand j'étais jeune. Mon neveu y a joué quand il avait 10 ans. Enfin, en fait, enfin, comment dire, et nous, on a 20 ans d'écart. Qu'est-ce qui se passe en fait? Comment ça se fait que tous les jeunes aujourd'hui jouent encore Minecraft? On y retourne tout le temps, il y a quelque chose, enfin, il y a un truc
Bah, je pense
incroyable
qu'il faut
derrière
le
ce
voir
jeu.
vraiment comme les Lego, quoi. Tu vois, on a joué aux Lego quand on était gamin et les nouveaux enfants, enfin les jeunes d'aujourd'hui aussi jouent aux Lego. Donc c'est quelque chose d'un peu intemporel qui sera toujours là pour toutes les générations parce que finalement c'est assez simple et
Ouais, peut-être que
c'est
ça tient au fait que l'homme adore construire. Et
ouais.
que c'est, y a rien de plus simple que de construire sur Minecraft et en
Et ça te
2-2 tu
donne
fais ta maison et tout roule quoi.
c'est ça. Je pense que c'est assez gratifiant de
Ouais.
voir des résultats rapides et c'est assez facile à prendre en main parce que les contrôles de base sont pas très compliqués. Ouais, creuser, construire. Donc, tu peux vite laisser cours à ton imagination, ce qui est plutôt sympa, quoi. Et après, ça me rappelle vraiment ce côté aussi, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, les créateurs de contenu sur Second Life. Il y avait des boîtes qui sont créées aussi à l'époque de Second Life. Je pense que ça a toujours existé parce que Second Life n'est pas complètement mort. Où ben, tu avais des sociétés qui s'étaient créées pour spécialiser dans la création de contenu pour Second Life. Et qui avaient fait tout leur business autour de ça. Et comme aujourd'hui, on peut voir des sociétés qui se sont créées à faire des contenus pour des plateformes de métavers. Bon,
Oui,
ils avaient
bien
un peu
sûr.
plus de mal à survivre, je pense. Mais ça a toujours marché, je pense. Mais voilà, il y a des boîtes qui sont spécialisées en disant, voilà, nous, vous voulez sortir du contenu sur The Sandbox ou sur des Central Land, on peut créer des contenus pour vous, quoi. Ils travaillent souvent avec des marques ou des choses comme ça. C'est limite un peu proche d'un modèle économique d'une agence de communication. C'est une agence de com. En tout cas, il y a des entreprises qui se créent autour des systèmes comme ça. Personnellement, je trouve ça un peu dangereux. Tu vois, on a vu un peu l'exemple avec Unity. Hein, tu fais tout ton business autour d'un moteur et que le moteur décide de changer de politique, ben, tu te retrouves, ton business peut se retrouver à risque. Alors, t'imagines faire ça sur un moteur encore plus cloisonné, en disant, bah, si demain Epic, l'origine pour Fortnite, bah, ils disent arrête, bah, ton business est complètement mort, quoi. À moins que tu diversifies, mais sinon, c'est hyper dur de dire tu crées tout ça autour d'un business. Mais, ouais.
Bah, si tu veux, c'est toujours un pari, hein. De toute façon, quand tu entreprends quelque chose, maintenant ça va. Si tu te bases sur Epic, tu es assez serein. Tu sais que sur les 3-4 prochaines années, il y a quand même peu de chances qu'ils ferment le projet. Et
Ouais.
puis d'ici là, tu te seras renseigné, ils vont pas le fermer du jour au lendemain. Et ils vont dire, bah voilà, ça commence à aller mal, ils vont supprimer du monde, et ainsi de suite. Non, pas licencier, pardon.
Oui, ils sont pas, ouais, ils sont pas, oui, voilà, ils ont déjà un peu commencé à faire ça.
Ouais,
Et puis
non,
c'est
mais
pas
bien
trop
sûr.
dans la politique d'Epic. C'est vrai qu'après le track record, moi je serais plus méfiant, tu vois, par exemple un Google qui ferait ça, je dirais non, mais c'est bon, dans 6 mois ils arrêtent. Moi, quand ils ont annoncé Stadia, je me rappelle, je me dis non, mais jamais je développerai des trucs sur Stadia. Enfin, j'étais pas du tout hypé en tant que dev à faire des trucs sur Stadia parce que connaissant Google, ils sont capables d'arrêter quelque chose au bout de 6 mois parce que voilà, c'est pas, ils veulent juste tester et puis ça prend pas, bon, bah, ils arrêtent quoi. Et Stadia, c'est un peu ça. Ils ont essayé de faire passer la pige en disant ils lancent ça en marque blanche, etc., pour que ce soit pas complètement mort, mais la réalité c'est que plus personne fait des trucs sur Stadia, quoi. Donc, mais c'est un peu des spécialistes de ça. Mais tu vois, c'est aussi là, pour moi, il y a certaines boîtes, ouais, il faut peut-être plus se méfier quand elles font ce genre d'annonce, mais oui, tu as raison, c'est un pari. Tu entreprends, tu fais un pari, si ça marche, ben, c'est un succès, sinon, ben, t'étais un peu coincé, quoi. Donc, ouais, je me rappelle encore tu vois, traumatisme de Flash où tout le monde s'était lancé dans Flash à apprendre à coder, hein, avec la S3, à faire tout ton process, ton pipeline avec Flash. Bon, c'est pas arrivé du jour au lendemain, mais t'as pu voir l'agonie de Flash au fur et à mesure des années, et dire bon, tout ce que j'ai appris là, il faut que tu peux plus l'utiliser et il faut le porter sur, faut utiliser autre chose, et cette autre chose n'était pas si évident que ça, quoi. Il n'y avait pas grand chose qui a remplacé Flash pour moi pour l'instant.
Je sais pas si j'ai encore mon livre ActionScript 3. Ouais, je regarde.
Ouais,
Ah bon, voilà. Est-ce que
voilà.
c'est pas un peu le mot de fin?
Ouais, bah écoute, on va s'arrêter là pour les news. Mais si vous êtes intéressé pour voir un peu comment c'est la vie d'un développeur pour avec l'UFN, allez lire l'article de Game Developer, je vous mettrai en lien. Comme ça vous donnera peut-être des idées. Et si ça vous motive, vous pourrez prendre. Il y a plein de ressources, c'est hyper documenté. C'est voilà, c'est Epic Games, hein, donc il y a plein de gens, il y a une grosse communauté, il y a plein de trucs. Et pour tester quelques modes, c'est plutôt cool quand même. Il y a des trucs assez rigolos pour jouer à plusieurs et tout. C'est un peu des modes un peu what the fuck, ça part dans tous les sens. Donc il y a des choses intéressantes à faire et allez, allez, jetez un oeil sur l'article si ça peut vous donner des idées. Écoute, je propose qu'on passe à la section horoscope
Ouais.
pour toi. Alors moi, j'ai rien mis.
Moi, j'ai une petite news en 2-2 à vous raconter, tellement que j'ai trouvé ça drôle, mais ça ne méritait pas un traitement comme on a l'habitude de faire.
Ouais.
Tout le monde se rappelle, j'espère en tout cas, de l'échec cuisant qui est The Lord of the Ring Gollum. Un échec cuisant d'ailleurs à tout niveau, hein, que ce soit la DA, que ce soit les mécaniques de jeu. Enfin, je crois qu'il n'y a absolument rien à récupérer de ce jeu. Et on a appris dernièrement, donc de mémoire, c'était le 10 octobre, que la lettre d'excuse qu'on a tous pu lire, enfin en tout cas ceux qui s'intéressaient au phénomène d'échec qui était ce jeu, et ben en fait a été écrit par ChatGPT. Et donc ça c'est assez drôle. Et en plus de ça a été écrit par ChatGPT par Nacon qui est l'éditeur, sans en avertir Daedric
Adélique,
qui Daedalic pardon qui est le développeur. Donc voilà, il y a deux sources qui ont confirmé ça. Et donc c'était la petite news que je voulais narrer parce que je trouve ça assez drôle
ouais, mais
que
quand tu voulais en parler,
même
moi... ouais.
parce qu'en fait si tu veux même la lettre d'excuse elle est foirée quoi, elle est foireuse. Il y a rien qui va du début à la fin quoi.
Ouais, j'avoue, c'est très, très, très maladroit, on peut dire ça, peut-être,
Ah
pour
complètement
pas
ouais.
dire autre chose de leur part. Mais au début, quand tu m'as balancé le truc, je me suis dit, mais attends, ils ont écrit tout le script du jeu avec ChatGPT. Ça aurait été avant-gardiste à fond, quoi, tu vois. Ah, c'est trop ouf et tout,
Et
mais en
non,
fait, non, c'est pas du tout,
malheureusement
c'est la
non.
lettre d'excuse, ah oui, ok, ouais,
Ouais. Et l'autre chose que je vais dire en horoscope, il y a
Ouais.
un article que j'aimerais bien qu'on parle peut-être pour le prochain épisode. Il y a CD Projekt qui fait parler de lui en ce moment avec la sortie de la donne Phantom Liberty pour Cyberpunk 2077.
Ouais.
Et il y a un article très intéressant que je t'enverrai qui parle un peu de la masterclass que ça a été de la part de CD Projekt, de comment ils en sont venus d'un échec cuisant, enfin pardon, d'un lancement qui
Foireux.
était un échec cuisant
Ouais.
à ce qu'il en est aujourd'hui et comment ils s'en sont sortis aussi finalement avec leur Cyberpunk Edgerunner qui lui a été un carton sur
D'accord.
Netflix. Et donc du coup, ils sont en train de développer plein de choses, mais voilà, j'aimerais qu'on en parle
Bah écoute,
pour un
avec
prochain
plaisir, hein.
podcast.
Ouais, on peut essayer de faire un petit traitement un peu particulier à ce sujet. Parce que moi, je suis un peu de loin, je t'avoue, j'ai pas trop regardé. J'avais suivi à l'époque quand ils avaient lancé Cyberpunk et on avait même très parlé de ça, je pense, dans un podcast pour bah, parler un peu des jeux comme ça qui ont eu un revival à post-lancement, parce que le lancement était catastrophique, comme No Man's Sky aussi, où c'était pas
Ouais.
forcément très positif leur lancement, mais qui n'ont pas laissé tomber, qui n'ont pas lâché l'affaire et qui ont continué à itérer, à faire des updates et réussi à sortir des versions au fur et à mesure de leur update, patch, etc., beaucoup plus qualitatif et à atteindre une version très, enfin, exceptionnel quoi, enfin quelque chose de vraiment beaucoup plus jouable, proche même de la promesse initiale qui avait pas pu être tenue par le lancement. Donc ça apporte plein d'autres questionnements sur les délais de production, les coûts, les promesses, la pression éditeur, etc. Donc il y a plein de choses qui peuvent être discutées autour de ça, parce que je pense que moi je me rappelle en écoutant justement ces anciens podcasts de votre podcasting quand ils avaient lancé The Witcher 2, The Witcher 3, bien avant Cyberpunk, tous les critiques de jeux vidéo acclamaient la politique de CD Projekt Red sur leur engagement sur la qualité, de ne pas rusher leur jeu, etc. C'était avant Cyberpunk.
Et oui, mais alors moi, ça j'aimerais bien savoir les dessous, mais bon, c'est dommage, on est en train d'en parler
Ouais.
sans avoir trop le temps, mais
Oui.
ça, avant de sortir, il y a eu 6 ans de développement pour Cyberpunk.
Ouais,
Et
donc
ça a
c'est quand même.
commencé avant la sortie de Witcher 3.
Oui,
Donc,
exact. Ouais. Ils ont fait
il y a
l'annonce.
quelque chose qui est bizarre. Il y a quelque
Ils
chose
ont
qui
fait
est bizarre
l'annonce, je me
là-dessus.
rappelle. Ouais, c'est ça. C'est à peu près au même moment que le Witcher 2 était sorti, quoi. Qu'il y avait. Ouais. Non, peut-être raison. Bah, écoute, on essaie de garder ça en tête. Là, on essaie de faire un petit travail d'investigation de fond, des journalistiques, de faux journalistes que nous sommes.
Mettre ma casquette et ma pipe.
Ouais, non, mais ce serait assez rigolo. Ouais. Bon, voilà. Écoute, mon côté, moi, voilà, comme je disais, je fais beaucoup de rétro-podcasting. Donc, voilà, ça, je continue cette lancée. Je suis en 2016 actuellement, tu vois, je suis en avril 2016, avril-mai. Donc, voilà, il y a des choses qui se passent sur plein de sujets. Alors, je sais plus ce que c'est actuellement, mais rien de marquant. Mais en tout cas, j'ai pris un méga fou rire. Je pense que ça fait longtemps que j'ai pas autant rigolé. Et puis, je pense que la première fois que je rigolais autant, j'étais tout seul à écouter ça. Je me suis fait rire en écoutant un épisode de ZQSD. Où, tu vois, rien que d'en parler, ça me fait déjà. Ça me rappelle. Ils sont vraiment. Enfin, si vous connaissez pas le podcast de ZQSD, écoutez-le. Et puis, c'est vraiment super bien. Et puis, faire du rétro-podcasting avec eux, c'est vraiment génial. Par contre, ils ont des épisodes de 3-4 heures. Hein, donc, faut s'accrocher pour écouter ces 3-4 heures de podcast à chaque fois. Mais ils sont vraiment fou et ils font bien marrer. Et en fait là c'était juste une anecdote sur quelqu'un qui avait déjeuné avec Sid Meier et quelqu'un dit mais ton déjeuner tu l'as fait au tour par tour tu vois c'était bon, comment vous avez fait passe-moi le sel tu fais tes trucs tu fais ton... Bref. Bon, je le raconte super mal d'écouter le podcast mais j'étais vraiment très très j'ai vraiment pris un très bon fou rire donc ton podcasting ça fait du bien je vais continuer donc, ça permet de revoir et de retracer un peu je vais faire historien du jeu vidéo ça peut-être que c'est ma passion cachée non.
Parfait.
Voilà c'est un peu ça mon horoscope sinon j'ai pas beaucoup de temps pour autre chose en ce moment donc, en plus j'ai le stress et les vacances scolaires qui vont bientôt arriver il va falloir gérer ça aussi donc c'est des choses un peu prenantes bah c'est tout pour nous cette semaine où est-ce qu'on peut retrouver du coup toi Benjamin?
Eh bien, toujours pareil sur Steam, la page
Ouais.
Inuloa's Fate avec une démo qui devrait arriver incessamment sous peu.
Et on peut toujours rajouter en wishlist à
On
chaque fois.
rajoute en wishlist
Ouais, c'est
carrément,
ça.
c'est super important pour nous.
Ouais.
Et bien entendu, on nous rejoint sur Discord afin de pouvoir donner votre avis sur notre démo et qu'on puisse derrière le peaufiner, l'améliorer pour qu'on puisse sortir vraiment un jeu qui fonctionne, qui marche et qui nous permette bien sûr de continuer dans l'aventure folle du studio de développement indépendant de jeux vidéo.
Yes, ça marche. Et ben en fait, tu vois, je viens juste de rejoindre le Discord parce que je me suis dit, tiens, je n'avais pas rejoint encore ton Discord.
Et ben voilà, impeccable. Bienvenue à toi.
Merci beaucoup. Et ok, bah super. Et en tout cas, pour les coulisses du jeu, vous pouvez toujours nous retrouver partout hein, sur x.com, at coulisses du jeu, coulisses au pluriel, sur YouTube, la chaîne coulisses du jeu. On a toujours notre Discord, voilà, on est deux, trois. Y a pas trop de monde, mais c'est très intimiste. On peut toujours rejoindre le Discord aussi du podcast si ça vous intéresse. Et vous nous retrouvez partout, comme je vous disais en intro, les plateformes de podcast habituelles. On peut Apple Podcast, Google Podcast, tous les endroits où vous pouvez nous écouter, Spotify également. Donc voilà, c'est tout pour nous cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!
Au revoir.